France Musique. Musicopolis. août 1946, Zurich. Depuis presque un mois, le compositeur est en vacances en Suisse avec sa famille. Enfin en vacances, mais studieuse. Les sorties en montagne alternent avec les heures de travail sur sa nouvelle symphonie, la quatrième. La Haute Engadine est particulièrement belle. Et l'été, la vie musicale y est très active. Il a assisté avec sa famille à des concerts avec Dean Oulipati et Pierre Fournier, et avec Paul Zacher. Le 8 août, ils sont à Saint-Moritz. Le 12, excursion à Lenzerheide et Coire. Puis retour à Sils-Maria et soirée avec les Munch, avec qui il déjeune aussi le 13. Le 14 août, retour vers Zurich, où le 17, Charles Munch dirige la création de la symphonie qui lui est dédiée, la troisième d'Arthur Honegger. La troisième symphonie d'Arthur Honegger a beaucoup de succès dès le soir de sa création, le 17 août 1946, à Zurich. C'est le début d'une longue série de concerts dans de nombreuses villes européennes. Honegger lui-même la dirige début novembre à Milan. Puis Munch donne la création parisienne le 14 novembre. C'est ensuite Londres en décembre, puis Bruxelles. En février 1947, elle est donnée à Strasbourg et Monte-Carlo. Puis Paul Zacher la dirige à Prague en mai, à Vienne en juin, Budapest et Baden-Baden en septembre. Bref, la symphonie s'installe au répertoire. Mais je ne vais pas vous lasser avec une longue liste de villes. Revenons plutôt à la jeunesse de l'œuvre. Et pour ce faire, il nous faut remonter à janvier 1945. Nous sommes à Paris, libérés depuis 5 mois à peine, après 4 ans d'occupation. Arthur Honegger a passé la période de la guerre en France. Il est citoyen suisse, mais sous l'occupation, il a choisi de rester à Paris, où il habite depuis ses études. Il a pu néanmoins disposer parfois d'un Ausweis pour aller donner quelques concerts en Suisse, en Belgique, en Espagne ou au Portugal. En 1941, Honegger s'est rendu à Vienne pour les festivités du 150e anniversaire de la mort de Mozart. Mandaté par le journal Commedia, pour qui il écrit des articles de critique musicale, il en a profité pour faire passer le manuscrit de sa deuxième symphonie à Paul Zacher, qui doit la créer en Suisse quelques temps plus tard. Le voyage en Autriche lui a été beaucoup reproché après la libération, juste avant qu'il commence la troisième symphonie. Fin décembre 1944, Honegger écrit à Paul Claudel. Ma situation est assez comique. On ne veut pas me faire passer devant une commission d'épuration, car on n'a, paraît-il, rien à me reprocher. Mes quelques collègues, très bienveillants, pensent que, dans mon intérêt, il n'est pas souhaitable que l'on joue de ma musique en ce moment. Je puis vous assurer qu'en mon âme et conscience, je n'ai rien à me reprocher. C'est à la suite de mes articles dans Comédia qu'on est venu me demander de faire partie du Front National de la Résistance en 1941. Il est donc peu logique de me les reprocher aujourd'hui. La situation à Paris fin 44 et début 45 est très dure. On manque de tout, nourriture, chauffage, et même si le pays est libéré, la guerre n'est pas finie et l'angoisse est toujours là. C'est dans ces conditions dramatiques qu'Arthur Honegger commence à travailler sur une symphonie. Et d'abord sur un morceau lent, Adagio. Il l'intitule « De profundis clamavi »,« Des profondeurs, je criais ». Nous avons la chance d'avoir dans les archives de l'INA une série d'entretiens entre Arthur Honegger et Bernard Gavotti réalisée en 1950. L'un d'eux porte justement sur la troisième symphonie qui nous intéresse aujourd'hui. Honegger explique la signification de ce « De profundis ».
C'est la méditation douloureuse de l'homme abandonné. C'est une méditation qui est à la fois une prière et le résultat de ce jour de colère. Chacun est anéanti, chacun du fond de sa détresse crie « De profundis, clamavi a te domine », des profondeurs de la misère. Il s'adresse vers ce qui pour lui représente une force supérieure, il l'appelle à l'aide. À un moment donné, les basses, les contrebasses et le piano scandent le second motif qui est le De profundis. Vous entendrez à la basse les paroles même qui en sortent.
De profundis, clamavi ad te domine.
À la fin du mouvement De Profundis, Honegger va tout de même nous laisser une lueur d'espoir. Il l'explique à Bernard Gavotti en 1950.
On n'en peut plus, l'homme est en plein dans sa détresse, le ciel est fermé. Et alors, je me suis souvenu de ce qu'avait écrit Claudel dans notre Jeanne au bûcher. Il y a l'espérance qui est la plus forte, il y a la joie qui est la plus forte, il y a l'amour qui est le plus fort. Et ce message de ma petite colombe, c'est un message justement de joie, d'amour et d'espérance qui reste toujours au fond du cœur de l'homme malgré toutes les détresses et tout ce qui lui arrive.
Ce mouvement, le deuxième de la troisième symphonie d'Honegger, lui a coûté beaucoup de peine, puisqu'il a essayé de ne pas utiliser les formules et procédés qu'on trouve habituellement dans une symphonie. Il veut, dit-il, aller de l'avant, marcher sans se retourner et prolonger la courbe initiale sans redite ni arrêt. Il est en Suisse, près de Zurich, chez ses amis et mécènes les Acher, le 3 octobre 1945, lorsqu'il achève le De Profundis, qui va devenir le deuxième mouvement de sa symphonie. Il a passé tout le mois de septembre en Suisse et c'est dans le train entre Bâle et Berne qu'il a eu l'idée du premier mouvement, le Dies Irae.
Voyez-vous, il s'agissait pour moi de peindre le désarroi humain en face de la colère divine, jour de colère. Les thèmes de violence se succèdent. Sans aucune allusion grégorienne. L'ouragan balaye tout, pas moyen de souffler, de réfléchir, pas une lueur d'espoir. Thank you.
À Paris, au mois d'octobre et novembre 1945, Honegger travaille à sa troisième symphonie. Il termine le premier mouvement, Dies Irae, le 5 décembre. Et le 18, il en a achevé l'orchestration. Le 10 décembre, Paul Zacher, chef d'orchestre, mécène et ami d'Honegger, l'avertit qu'il a proposé à l'organisme Pro Helvetia, qui voulait commander une œuvre au compositeur, justement la symphonie qu'il est en train d'écrire. Honegger accepte et il répond qu'il la destine à Charles Munch pour la création. Il ajoute « Mon séjour en Suisse, et particulièrement dans ton ambiance, m'a redonné le courage de m'atteler à une partition de ce genre. J'ai écrit les deux premières parties. » Dans une lettre à Paul Zacher de fin décembre 1945, Honegger décrit la situation d'après-guerre à Paris. Pas de lumière souvent, pas de feu, nourriture toujours difficile à trouver et à des prix exorbitants. Menace de nous voir imposer des pensionnaires dans nos appartements, impôts sans cesse grandissants, enfin tout ce qu'on peut appeler graves emmerdements. Néanmoins, il travaille sur le final de sa symphonie qu'il intitule « Dona nobis pacem ». Et il voyage beaucoup. Début janvier, il va entamer une tournée qu'il mènera en Suisse, en Belgique et en Italie. Il est à Paris le 10 mars, jour de ses 54 ans. En avril, il séjourne chez Charles Munch à Gros-Rouvre dans les Yvelines. Le 21, jour de Pâques, il termine le mouvement et donc la symphonie. L'orchestration sera achevée une semaine plus tard. Honegger poursuit son récit de la troisième symphonie avec Bernard Gavotti à la radio en 1950.
Dona nobis pacem. Là, c'est ma colère.
Le Dies Irae, vous avez pas suivi.
Ne confondons pas, je vous en prie, la colère de Dieu et mes accès de colère personnelle. Je vous demande, qu'y a-t-il de plus inepte que la barbarie dans laquelle nous vivons depuis ces derniers temps ? Ce que j'ai voulu exprimer dans ce final de la troisième partie, c'est justement cette montée de la stupidité collective. J'ai forgé à dessein un thème intentionnellement stupide, exposé d'abord par la clarinette basse avec un rythme lourd et pesant, recommence toujours, tourne toujours autour des mêmes notes. C'est la marche des robots contre l'homme civilisé. Cela, pour moi, symbolise toutes les bêtises, c'est-à-dire les dirigeants des pays et leurs lois, la bureaucratie, l'administration, les douanes, tout ce qu'on a imaginé pour abaisser, pour spolier, pour rendre stupide le pauvre être humain.
Alors,
à ce moment, un autre thème surgit, celui de la révolte instinctive de l'être humain qui veut se faire jour et qui est comme cramponné au morceau et qui monte alors progressivement jusqu'à la fin où, dans une grande clameur qui est comme à la fois une supplication et une revendication, l'humanité gueule « Dona nobis pacem, fous-nous la paix !» Et cela signifie bien qu'on nous débarrasse de tout ça. Et alors, cette petite coda vient toute simple en disant voilà au fond ce que pourrait être le bonheur des êtres humains. Un humble paradis où il y aurait de la beauté et de la joie. Ça pourrait être ça, la vie. Puis, voyez, encore une fois, l'oiseau.
Dona nobis pacem, le final de la symphonie numéro 3 liturgique d'Arthur Honegger, l'orchestre philharmonique d'Oslo dirigé par Maris Janssons. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis, où vous trouverez aussi une petite surprise grâce aux archives INA. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Guillaume Ledu pour le mixage, Max Dosolme et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.